Ce qui me bénit aussi beaucoup, c'est que dans Éphésiens 2, ça dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Déjà maintenant. Alors, ça va dans la lignée du fait qu'on est co-héritier avec Christ. On a lu le Romains 8 ce matin, certains l'ont trouvé en tout cas, sinon tout le monde peut-être. Et ça dit qu'on est co-héritier avec Christ, ça veut dire qu'on est prince et princesse. Puisque Jésus, notre frère, c'est un roi. Alors, dans la royauté, les frères et sœurs du roi sont des princes et princesses. Alors, vous pouvez vous regarder l'un l'autre maintenant et dire « Bonjour, princesse, bonjour, prince. » On peut faire comme ça, hein? La reine d'Angleterre. Alors, Ruben m'a demandé de... Je pense que j'ai ça ici, oui. Ruben m'a demandé de vous faire part des ressources qu'on pouvait trouver en relation d'aide chrétienne au Québec. Et puis, j'ai mis ça sur un site Internet qu'on ne peut pas trouver sans cette adresse-là. Parce que j'ai fait un site gratuit avec Wixi, et Wixi, tu cherches Google, tu ne trouves pas René Laframboise, etc. Donc, sur ce site-là, il y a un onglet pour trouver un conseiller. et puis, bon, mon site, quand je l'ai fait en premier, c'est parce qu'un pasteur m'avait demandé de mettre sur Internet un enseignement que j'avais donné sur pourquoi se marier plutôt que rester à côté. C'est quoi la différence entre l'union libre et le mariage? Parce que les chrétiens, les jeunes chrétiens même se posent la question, n'est-ce pas? Peut-être que vous posez vous-même la question. Est-ce que certains d'entre vous vous êtes posé la question là-dessus? Ou c'est comme évident? Non. En tout cas, vous n'êtes pas posé la question, fait que ça ne vous intéressera peut-être pas de regarder l'enseignement sur le site, mais il est sur le site. Et puis, il y a un onglet qui s'intitule « Trouver un conseiller ». Puis là, vous allez voir un PDF. Et puis, dans ce PDF-là, vous allez pouvoir trouver les ressources à date. Il y a un regroupement de chrétiens qui travaillent en relation d'aide, dont je m'occupe, une sorte de réseau. On se voit une fois par année, ceux qui veulent venir à une rencontre. Et puis, donc, ceux qui sont là, ça ne veut pas dire que je les recommande. C'est simplement une information. Et chacun est responsable de voir si cette personne-là convient ou pas, si l'approche convient ou pas, si c'est une approche qui est vraiment centrée sur Christ, la croix, etc., ou pas. Ça, il n'y a aucune garantie. Mais c'est pour vous informer. Et je sais que ce n'est pas évident non plus pour des étudiants, des gens qui ne sont pas en moyen d'aller voir quelqu'un qui fait la relation d'aide, puis de payer. Des fois, c'est quand même, ça peut être assez cher, certains d'entre vous, même d'autres personnes qui sont sur le marché du travail aussi. Alors, moi, je suis à Granby, je fais la relation d'aide depuis Granby, ça fait quand même une heure de Montréal. Ce n'est pas évident non plus pour les gens qui habitent dans la région de Montréal. Mais quand les gens n'ont pas d'assurance... Pour moi, je demande un montant minimum de 30 $ pour une rencontre qui va durer une heure et demie à peu près. Puis même quand ça peut arriver exceptionnellement que quelqu'un va vraiment rien, puis je vais quand même l'accueillir. Ce n'est pas l'argent qui est le plus important, c'est un ministère pour aider les personnes. Mais quand la personne paye quelque chose, c'est comme elle s'investit aussi. Donc, il y a un élément d'investissement. Quand c'est gratuit, des fois, les gens vont peut-être moins s'impliquer. Alors, je ne sais pas si un jour j'aurai un bureau sur Côte-des-Neiges, on ne sait jamais. Mais pour l'instant, je suis à Granby, pas dans le zoo, par exemple.
Quoique,
il pourrait y avoir des ressemblances avec la cage numéro, on ne dira pas laquelle. Voilà. Alors, moi, je vais enlever une pelure quand même, parce que vers ici, fait chaud. Ce matin, on a un thème qui s'intitule « Être affirmé par le Père » et j'indique l'étape ultime par rapport à... pourquoi je dis ça, l'étape ultime? C'est parce que c'est vraiment une étape super importante et super bénissante. Le Père veut nous établir, nous affirmer. Et puis, il y a deux passages que je mets ici, celui de Romains 8 que vous avez lu ce matin, qui dit que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais nous avons reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». « Abba » veut dire « papa », en fait, c'est un mot intime araméen. « Papa, papa ». Et ça dit ensuite, l'esprit rend témoignage de notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes, si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu, du Père, et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés aussi avec lui. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas la vie de toute facilité. Il y a des souffrances dans la vie. Et Éphésiens 3, versets 14 à 21, c'est un autre passage qu'on pourra lire maintenant. Qu'au niveau de l'identité, je trouve que c'est un passage qui est tellement riche et qui parle, les deux mots importants que je trouve dans ce passage, c'est être enraciné et fondé dans l'amour. L'amour, c'est au centre de nos aspirations. Être aimé, aimer Dieu et être aimé par lui. Et c'est ce qui nous établit dans notre identité, c'est quand nos racines, notre fondement, c'est vraiment dans l'amour qu'on reçoit avec Dieu. Et Paul, donc, il y a deux prières de Paul dans l'Épître aux Éphésiens. La première prière, c'est dans Éphésiens chapitre 1. La deuxième, c'est dans les chapitres 3. Puis là, c'est une prière qui est faite encore à papa. Il dit, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. Tu viens du Père. Ton nom vient du Père. Ton identité vient de lui. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'être intérieur. Par son esprit. Romains 8, l'esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. L'œuvre du Saint-Esprit dans notre être intérieur. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur? Quatre dimensions. On vit dans un monde à trois dimensions. Il y en a quatre pour indiquer la grandeur de l'amour de Dieu. De connaître la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur et de connaître l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Ça fait penser à Jean 10, 10, quoi. Vous avez la vie en abondance, être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, la présence de Dieu dans ma vie, c'est ce qui m'établit dans mon identité. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Alors, Dieu veut nous affermir, il veut nous établir dans son amour. Et Paul prie, fait cette prière afin que, par l'Esprit, on soit visité pour recevoir une révélation de combien tu es aimé de Dieu. Combien tu es une personne qui vaut la peine d'être aimée. Combien tu es aimable et combien le Père est amoureux de toi. Il a prouvé en Christ, mais il veut que tu y goûtes, que tu vives, que tu trempes dans cet amour-là. Alors, Romains 8 nous parle d'adoption. Alors, quand on parle d'adoption, alors il y a toutes sortes d'expériences malheureuses qui peuvent exister dans l'adoption ou dans les foyers d'accueil. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vécu l'adoption ici ou un accueil placé en foyer d'accueil. Personne n'a eu cette expérience-là parmi vous. Okay. Mais on sait que parfois, j'entends des histoires d'un enfant qui va être accueilli dans une famille d'accueil ou même adopté, mais lorsqu'il est temps du dessert, il n'y a pas le droit au dessert. Ou il ne s'assoit pas à la table avec tout le monde, il s'assoit dans un coin. Il y a des choses malheureuses qui se passent. Mais quand Dieu nous adopte, ce n'est pas comme ça que ça marche. Quand Dieu nous adopte, il nous accueille véritablement, pleinement, comme son enfant. Et donc, quand on a parlé hier de consolation, que Dieu veut nous consoler dans nos afflictions, qu'il veut nous guérir, il va encore plus loin que ça. Et l'exemple que je prends, c'est lorsque, par exemple, quelqu'un se casse une jambe. Hein? Quelqu'un va se casser une jambe, eh bien, on va d'abord réparer la cassure, mettre un plat, etc. Et puis après, il y a une période de réhabilitation. On réapprend à marcher. Alors Dieu, lui, prend la relève dans nos vies. Et il veut nous amener à marcher en nouveauté de vie. Et pour cela, il veut s'investir pour qu'on soit reconstruit, comme Éphésiens 3 le dit, dans notre être intérieur, par l'Esprit. Alors, j'ai cité Guy Corneau hier, ce psychanalyste qui dit que père manquant, fils manqué dans son livre, il dit que manquer de père, c'est manquer de colonne vertébrale. J'aime cette image de colonne vertébrale. Alors, j'ai une autre tentative ici. Qui a mal au dos parfois ici? Est-ce qu'il y a des gens qui ont mal au dos? Et là, je pensais, oui. OK. D'autres, vous avez pas mal, mais... Ouais. Alors, on sait que hein, notre colonne, elle porte le reste du corps. Quand on a mal au dos, ça, c'est vraiment pas évident. Et si on porte de lourds fardeaux dans notre vie, bien, ça a tendance à nous courber. Et un père qui n'a pas parlé à sa fille, à son fils, dans des paroles d'encouragement, d'affirmation, « Je suis fier de toi, tu es capable, vas-y », etc., la colonne vertébrale se courbe. Si vous prenez, par exemple, un enfant en train de jouer au hockey à l'aréna, et son père est sur le bord de la bande, et puis crie à son fils, « Vas-y, mon fils, t'es capable! » Là, le fils, il va avoir un regain d'énergie tout à coup, puis il va partir en flèche. Pourquoi? Parce que son père est avec lui, puis son père croit en lui. Ça redresse sa colonne. Mais quand on n'a pas eu notre colonne redressée, à ce moment-là, on devient courbé. Mais le père, lui, non seulement il veut soigner nos vies, mais il veut nous redresser. On va voir ce matin, mais comment est-ce que Dieu fait cela? Il veut donc nous rétablir dans notre identité, nous donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors, dans l'atelier, on a parlé, par exemple, de la parabole du fils prodigue. Le père dit au fils aîné, « Tout ce que j'ai est à toi. » Alors, Romains 8 parle de l'héritage. Il veut qu'on entre dans notre héritage. Ce qu'on n'a pas eu, Dieu veut nous le donner maintenant. Quand on est enfant, on est adopté en Christ, on n'est pas un esclave. On n'est pas dans la crainte. Mais j'ai posé la question dans votre méditation, mais ça, de quelle crainte s'agit-il? La crainte de servitude, c'est plus loin. Avant, ça dit qu'il n'y a pas de condamnation en Jésus-Christ, Romains 8, 1. Puis plus tard, ça dit rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. La crainte que je ne suis pas vraiment aimé, pas vraiment aimable, la crainte que je ne suis pas vraiment proche de Dieu, la crainte d'être encore comme un esclave et pas un héritier. Alors Dieu veut nous faire entrer dans cette adoption où on entre notre héritage, tout ce que le Père a, c'est à moi. Tout ce que Jésus a, c'est aussi pour moi. Alors, comment est-ce que Dieu fait cela? Il reconstruit par la parole. J'aimerais qu'on réfléchisse un moment à l'importance de la parole. Comment est-ce que le monde a été créé? Par la parole. Genèse 1, 3. Au commencement, Dieu dit. Jean chapitre 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, tout a été fait par elle. Et ce matin, dans ma méditation quotidienne, j'étais dans le psaume 33. Et au verset 6, ça dit, « Les cieux ont été faits par la parole éternelle, toute leur armée par le souffle de sa bouche. » Et au verset 9, « Car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. » Et on doit réaliser que tout est autour de nous a été créé par Dieu qui a parlé. C'est un mystère. Avant qu'il parle, il n'y avait pas. Mais quand il s'est mis à parler, les choses ont existé. Donc, il y a une puissance dans les mots, puissance dans la parole. Et on l'a expérimenté tous dans nos vies. Si le père dit à son fils, tu es un imbécile, il proclame quelque chose et il crée quelque chose de destructeur. Si le père ne dit rien, il y a quelque chose qui ne se crée pas, qui ne vient pas en existence. Le silence a aussi un impact. Je vais illustrer ça dans un petit moment. Mais pensons par exemple à Deutéronome 8, 3 qui dit « L'homme ou l'être humain ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il ne s'agit pas ici juste de versets bibliques qu'on lit comme ça, mais d'être établi dans nos vies par les paroles qu'on reçoit et qui vont nous nourrir intérieurement, qui vont nous construire. Alors, tout ça pour dire que quand je n'ai pas été construit étant jeune, Dieu, maintenant que je deviens adulte, Dieu veut me construire ou me reconstruire. Reconstruire, c'est-à-dire, il veut me guérir des mauvaises paroles reçues, me guérir de la douleur de ne pas avoir rien entendu, mais maintenant, il veut remplacer le vide ou le mal par sa parole. Donc, il prend la relève, il me prend en charge. Alors, pour vous encourager, j'ai vécu quelque chose, moi, j'avais 43 ans. Alors, vous avez de l'espoir pour vous, vous êtes beaucoup plus jeune que moi. Vous êtes beaucoup plus jeune que 43 ans, beaucoup, encore beaucoup plus jeune que moi, rendu aujourd'hui à 66 ans. Mais un jour, j'étais à Montréal dans une conférence avec mon épouse. Je présume qu'on est arrivé un peu à la toute fin du début de la conférence, c'est-à-dire juste avant que ça commence, parce qu'on s'est retrouvé sur la première rangée. Généralement, la première rangée, les gens n'y vont jamais. Bon, pour le moment, il n'y a plus de place, on était en avant. C'était assez en avant. Puis c'était Larry Crabb, un enseignant qui venait des États-Unis, qui enseignait sur la masculinité. Alors ça, c'était en 1993. Alors, je pense que personne n'était là en 1993. Et le thème, donc, c'était sur la masculinité. Et puis Larry Crabb était là devant. Et puis, il se met à décrire un peu la relation père-fils. C'était pour les hommes, mais je ramène toujours les filles ici, là. C'est aussi pour les filles, ce que je vais dire. Parce que on a dit hier que le père a un rôle déterminant sur l'identité, non pas juste du garçon, mais aussi de la fille. Alors, il décrit cette relation-là, père-fils, en disant, le père, c'est celui qui va dire à son fils, « Mon fils, je suis fier de toi. Mon fils, je crois en toi. Mon fils, je suis avec toi. Mon fils, t'es capable. » Il décrivait ce genre de choses-là. Et moi, j'entendais ça. Et puis, je me retrouvais à 43 ans avec une certaine lutte par rapport à l'infériorité. Dans les comportements révélateurs, j'ai décrit hier matin, l'infériorité en faisait partie. Donc, je luttais avec ça. Et puis, là, j'entends quelque chose où je réalise que jamais j'ai entendu ça de mon papa terrestre. Mon père, j'ai aucun souvenir de paroles d'affirmation de mon père. Et quand je me suis converti, mon père était encore très sceptique, pensait que j'étais témoin de Jéhovah, etc. Après, il était rassuré, je n'étais pas témoin de Jéhovah. Mais quand même, d'origine catholique, c'était quand même pas très bien accueilli. Donc, là, je réalise, j'entends ça, là, je réalise un vide de silence de mon père. Et là, je fais le lien avec mon complexe d'infériorité, et tout à coup, je pars en sanglots, assis là, sur cette première rangée. Je me mets à sangloter. Christiane, mon épouse, se tourne vers moi. Elle me regarde et dit, « Ça va, René? » Alors, je suis... « Oui, ça va! » J'étais là, surpris par le Saint-Esprit, en pleine chirurgie, où là, je réalisais d'où venait ma lutte. Je prenais conscience de l'impact du silence de mon père. Et en même temps, je connaissais qu'il y avait un Père céleste qui, lui, voulait prendre la relève et me parler. Et puis là, je pouvais recevoir des paroles du Père céleste en disant, « Moi, René, je crois en toi. T'es mon fils adoptif. Je suis avec toi. » Je ne dis pas que c'était exactement ces mots-là qui sont passés ce moment-là, mais c'est ce que j'y vais dans ce moment intense avec Dieu où je pouvais pleurer et dire que ça allait parce que j'étais en train d'être guéri par Dieu et où je pouvais entendre l'affirmation de mon Père céleste. Parce que vous savez, nos parents ne sont que des ambassadeurs. On a été prêtés à nos parents. Quand vous aurez des enfants, vos enfants vous seront prêtés. Ils ne vous appartiennent pas. Mais Dieu passe par papa et maman pour créer des liens étroits, en espérant que ce sera de bons liens, de liens positifs, etc. Mais à un moment donné, ça dit, l'homme, l'être humain quittera son père et sa mère. Et si je reviens avec le thème d'hier soir, la question de Ruben, c'est, je ne quitte pas quand je me marie, je quitte quand je deviens adulte pour m'attacher à mon Père céleste. Parce que c'est lui maintenant qui est mon père, ma mère. Mes parents n'étaient que des ambassadeurs imparfaits. Je suis un ambassadeur imparfait pour mes filles et mes petits-enfants, mais c'est le Père céleste qui prend la relève. Et de là l'importance de s'attacher, d'abord et avant tout, en tant qu'adulte, à mon Père céleste. Alors, cette expérience-là m'a fait prendre conscience que c'est une étape ultime, indispensable. Je ne vivrai pas, tu ne vivras pas de pain seulement, tu ne vivras pas de dépendance autour de toi, de béquilles, mais tu veux être reconstruit dans l'être intérieur dont Paul parle dans Éphésiens 3, l'être intérieur par l'Esprit de Dieu qui va te faire connaître, expérimenter que tu es le bien-aimé, la bien-aimée du Père céleste. Si on pense au baptême de Jésus, s'est passé quelque chose de très particulier. D'ailleurs, c'est un passage où on voit la Trinité, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit descend comme une colombe, et il y a la voix du Père. Et qu'est-ce que le Père dit au Fils? C'est ça. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans Luc 3, ça parle au « tu ». Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. On peut supposer, et ça, c'est une interprétation. Et... Non. Non. Merci. Ouais. Pas de jeunesse ambition. Mais une interprétation, quand il parle au-dessus, on peut penser Jésus, à l'âge de 30 ans, était Dieu et homme en même temps. Et là, publiquement, le Père affirme le Fils. Il vient le rassurer parce qu'il s'en va dans un 3 ans et demi pas évident. Et le Père parle peut-être au Christ homme, qui est Dieu en même temps, c'est un autre mystère. Il est Dieu et homme en même temps. Il parle au Christ homme et il établit dans son identité, « Tu es mon Fils bien-aimé. » Il le paterne. « Tu es l'objet de mon affection. » Et si Jésus a reçu ce genre de parole-là de la part de son Père, c'est pour nous comme un modèle. Il veut faire la même chose pour nous. Le Père veut parler à ses fils et ses filles. Dans 2 Corinthiens 6, verset 18, Dieu le Père dit ceci, « Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. » J'aime ce passage. « Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des fils et des filles. » Et il veut nous établir dans notre identité. On a lu dans Romains 8, vous l'avez lu ce matin, je l'ai parmi ici, au verset 29, on a été prédestiné à être semblable à l'image de Jésus, afin que Jésus soit le premier-né d'un grand nombre de frères. C'est assez extraordinaire. Dans les deux autres passages que j'ai mis là, ici, c'est Hébreux 2, 11, il n'a pas honte de nous appeler frères. Et puis, Jean 20, 17, c'est un très beau... excusez, je vais vérifier. Avant de mal citer, puis que Ruben m'attrape... Jean 20, 17. C'est bien ça. C'est après la résurrection de Jésus, Jésus rencontre Marie-Madeleine. Et puis, il parle ainsi à Marie, il lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. » Après ça, il dit quelque chose d'assez fort, formidable, Jésus, à Marie. Il dit, « Va vers mes frères. » Mes frères. Mes sœurs, les disciples, c'était les 11 qui restaient, c'était des hommes, mais on inclut toujours les femmes dans ces passages-là. Il dit « L'heure que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Wow! Je ne sais pas si vous comprenez le sens que ça signifie pour nous, mais c'est cette appropriation que Jésus dit « Toi, tu es dans ma famille. » Toi, tu es ma sœur, toi, tu es mon frère. Tu n'es pas juste un sauvé, mais on est ensemble à un niveau, entre guillemets, je marque, entre guillemets, d'égalité, d'appartenance, tout en sachant que Jésus, bien sûr, il est Dieu, on n'est pas Dieu, mais il nous inclut dans sa famille. Je trouve ce passage extraordinaire. Dans Jean 17, verset 23, Jésus dit quelque chose d'incroyable aussi. Il parle au Père dans sa prière sacerdotale, et puis il dit que le Père nous aime comme il a aimé Jésus. Ça, c'est comme difficile à recevoir. Que le Père m'aime comme il aime Jésus. Il y a là une générosité de cœur, une inclusion dans le royaume des cieux, comme je disais tantôt, Éphésiens 2, on est assis avec Christ dans les lieux célestes. On est assis avec Christ, qui est assis à la droite du Père. C'est comme, waouh, on est fils et filles du royaume, co-héritiers de Christ. Alors, on a vraiment une position extraordinaire auprès du Père. Et aussi, on a lu que nous sommes co-héritiers. Tout ce que j'ai est à toi. On est co-héritiers avec Christ. Donc, on a une position qui est extraordinaire. On n'est pas des esclaves. On est des enfants adoptés. Donc, les paroles que Jésus a reçues à son baptême, c'est un aperçu de ce que Dieu veut nous dire à nous, dans nos vies. Mais comment est-ce qu'on reçoit les paroles de Dieu? Parce que mine de rien, on peut avoir des difficultés à recevoir ce que Dieu a à nous dire. Pour différentes raisons. Romains 8, 16, que vous avez lu, ça dit ceci. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 5, 5 va nous parler que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc là, il y a un ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit habite en toi. Et il a un rôle de t'amener à saisir les choses par l'Esprit. Et moi qui étais très rationnel, je me suis converti beaucoup avec la logique et la raison. Un des livres qui m'a aidé à me convertir, c'était « La logique de la foi ». Petit livre. Il existe probablement encore quelque part. Parce que j'avais besoin de réponses à mes questions. Puis c'est pas mauvais de réfléchir. On est appelé à réfléchir. Dieu nous a donné une intelligence rationnelle pour s'en servir. Mais la parole de Dieu nous parle qu'il y a une autre sorte d'intelligence. Il y a une intelligence spirituelle. Et si j'écrivais un troisième livre, ce serait peut-être sur ce thème-là, mais je ne suis pas sûr encore que Dieu veut que je fasse ça. Je ne suis pas sûr que ça corresponde vraiment à une soif pour les gens. Mais dans ma vie, ça a été quand même un cheminement qui m'a beaucoup aidé. La Bible nous parle, par exemple, Romains 12, 2, « Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » On a besoin d'avoir une intelligence renouvelée, mais pas une intelligence rationnelle, mais une intelligence spirituelle. Colossiens 1, verset 9 nous dit, « C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. » Je reviens à Romains 8, 16. L'Esprit rend témoignage à mon esprit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je sais que je sais que je sais. Dieu m'a fait un cadeau à ma conversion. Parce que moi, avant de me convertir, je tripais sur des auteurs qui parlaient de la solitude, des chanteurs, Léo Ferré. Vous ne connaissez pas Léo Ferré, ce n'est pas grave. Mais je tripais sur la solitude, puis on est seul au monde, puis etc. Et puis, j'étais là-dedans. Mais au moment où je me suis converti, j'ai eu ce cadeau de Dieu parce que je n'ai jamais douté de la présence de Dieu dans ma vie depuis 42 ans. Mais pour certains, ça sera encore une lutte aujourd'hui, puis ce n'est pas parce que vous avez quelque chose qui ne marche pas avec vous en sens par rapport à Dieu, mais c'est parce qu'il y a un cheminement autre que Dieu, par lequel Dieu veut faire passer. Mais parfois, on a des cadeaux. Et puis, ce sens de la présence de Dieu, je l'ai. Pourquoi? Je ne peux pas l'expliquer. Je sais que je sais que je sais que Dieu est là. Je sais que quand il dit qu'il veille, qu'il regarde, j'aurai le regard sur toi, je sais que Dieu me voit. J'ai une conviction. Ce n'est pas rationnel, c'est spirituel. C'est une révélation que tu reçois dans ton esprit. Alors, d'autres passages que vous pourrez prendre en note, c'est Galates 3 qui nous parle d'écouter avec foi. On entend la parole de Dieu, on la reçoit avec foi par le Saint-Esprit. Éphésiens 4, 23 nous dit d'être renouvelé par l'Esprit dans notre intelligence. Donc, on a besoin de saisir les choses spirituellement. Il y a un beau passage de 1 Corinthiens 2, versets 10 à 16, qui dit que c'est spirituellement qu'on en juge. Mais on vit dans un monde très rationnel, où on essaie de tout saisir en essayant d'expliquer, de comprendre rationnellement, et ça nous bloque parce que Dieu veut nous amener à un autre niveau d'intelligence sans mettre de côté notre tête. En Hollande, j'ai entendu parler qu'il y avait une pancarte à la porte d'une église qui disait « Ici, on laisse notre tête à l'entrée. » Ça ne va pas du tout. Là. Non, non, Dieu nous a donné l'intelligence, il faut s'en servir. Mais il y a une autre sorte d'intelligence en plus qui nous donne. C'est une intelligence spirituelle. Et on est appelé à développer ça. Alors, une image qui va nous aider ici, c'est l'image du train. Pour essayer de comprendre comment est-ce que ça peut fonctionner, toute cette histoire-là. Alors, il y a des gens qui se laissent conduire par leurs émotions. Alors, ça, on voit ça. Et ça, ici, c'est l'intelligence, et ça, c'est notre esprit et ma volonté. Alors, ça, c'est courant. Dans les couples, par exemple, ça fait 6 mois que le couple est ensemble. Le matin, l'un se regarde à côté de l'autre. Je ne ressens plus d'émotion d'amour envers toi, donc je ne t'aime plus. Égal, je ne t'aime plus. C'est leurs émotions. Et quand on se laisse conduire par nos émotions fluctuent. Et donc, elles ne sont pas fiables. Et les gens vont essayer de ressentir quelque chose. Si je ressens quelque chose émotionnellement, ça veut dire que Dieu est là. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, être conduit par nos émotions fait qu'on met notre intelligence derrière et notre esprit encore plus loin derrière. Et on fait des choix avec notre volonté qui vont nous mener dans toutes sortes de directions. Et ça, ça fait une personne très instable, une personne superficielle. On ne veut pas être comme ça. Le prochain, c'est celui qui est rationaliste. Et je peux beaucoup m'identifier à ça. Je le suis de moins en moins. Je réfléchis beaucoup. Je pense que vous pouvez voir que je suis un gars qui réfléchit. Je n'ai pas mis mon intelligence sur la tablette. Mais j'essaie de connecter avec Dieu au niveau de l'esprit parce que Dieu m'a donné un esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. Dans l'âme, il y a l'intelligence. Dans l'âme, il y a les émotions. Dans l'esprit, il y a la communion avec Dieu, la conscience. C'est là que la connexion se fait avec Dieu. L'esprit rend témoignage à mon esprit. Donc, celui qui est rationaliste va mettre son intelligence en avant. Alors, dans mes premiers mois de conversion, vraiment, j'avais des luttes, puis même pendant plusieurs années, j'avais des luttes avec ma foi. Parce que là, à un moment donné, j'essaie de comprendre le simple concept de l'éternité. Et là, j'essaie de l'éternité. Comment ça marche? Dieu n'a jamais existé. J'essaie de comprendre que Dieu n'avait jamais existé, il n'y a jamais eu de commencement. Puis là, mes fusibles, ils pétaient. Puis là, ma foi en prenait un coup. Là, j'étais ébranlé. Ça ne marche pas. Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre rationnellement. On les saisit spirituellement. On dit, je sais que je sais que je sais. Que Dieu existe. Je le sais. On ne peut pas le prouver rationnellement que Dieu existe. On peut faire toutes sortes de raisonnements, mais on ne peut pas le prouver pour sûr. Et à un moment donné, il y a comme... Quand des gens sont très rationnels, moi, j'ai un gendre qui est agnostique. Discuter avec lui, il est super intelligent au niveau rationnel, beaucoup plus que moi. Alors, à un moment donné, je capote, je rends les armes, ça ne sert à rien. Mais mon désir serait que pour lui, vivre une expérience avec Dieu qui va au-delà du rationnel, qui soit rencontré par Dieu. Parce que si je reste au niveau intellectuel, je n'aboutirai pas avec lui, il est trop ferré. Donc, le train rationaliste, ça amène à être coincé. Dans notre vie, à un moment donné, on est bloqué, on ne peut pas avancer. Il y a un autre train dont je n'ai pas l'image, mais c'est celui qui est très spirituel, où lui va mettre son intelligence tout en arrière, va mettre les émotions entre l'intelligence puis son esprit. Puis alors là, il va être très instable aussi spirituellement, il va avoir des tripes spirituelles, et puis il va être instable aussi parce qu'il a mis son intelligence derrière. Pour moi, une personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu, ça ressemblerait à ça. Dans sa locomotive, il y a le Saint-Esprit et il y a l'Esprit de la personne. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis l'enfant de Dieu. Je reçois cette vérité. Et mon intelligence est juste là derrière pour accepter ça. Mon intelligence se soumet à cette vérité-là. Et à partir de là, je vais donc avancer dans ma vie en recevant des vérités sur moi, sur la vie. Et puis, mes émotions sont bonnes aussi. Les émotions, c'est bon. Il ne faut pas croire que les émotions, c'est pas... Les émotions ont été données par Dieu. Elles sont bonnes. Même l'émotion de colère n'est pas un péché en soi. Ça dépend de ce qu'on en fait. Éphésiens 4 nous dit, si tu te mets en colère, ne pêche pas. C'est un thermomètre quand on ressent... Donc, les émotions sont bonnes. La joie, etc. Mais elles doivent être en soumission à la volonté de Dieu. Alors, je ne sais pas si ça vous aide à comprendre que pour recevoir les paroles de Dieu, on a besoin de laisser Dieu parler à notre esprit. Et à un moment donné, moi, dans mon cheminement, c'était comme, à un moment donné, de dire, je soumets mon intelligence à mon esprit. Pour que je sois renouvelé dans mon intelligence, que j'ai une intelligence spirituelle, je me suis exercé à descendre de mon autel, mon rationnel. Parce que ça devient comme un dieu dans notre société. Le rationaliste devient comme une sorte de dieu. Surtout dans nos origines francophones, le berceau du rationalisme en France, le monde francophone est un monde qui est né dans une approche très rationnelle. Et ça nous amène des blocages, pour dire, mais comment je peux recevoir ce que le Père dit dans ma vie? Comment je peux croire que c'est vrai? Bien, à un moment donné, il faut comme se mettre en position d'ouverture de notre esprit. Je veux accueillir cette vérité. Je ne veux plus être déterminé par les mensonges que j'ai entendus. Mais je veux écouter avec foi, nous dit Paul, verset que j'ai cité tout à l'heure, dans Galates 3. Et juste une pensée par rapport au fait que dans Romains 8, ça dit « L'Esprit rend témoignage à mon esprit que nous sommes enfants de Dieu, l'Esprit par lequel nous crions « Abba, Père ». Et parfois, pourquoi est-ce que c'est marqué « nous crions » plutôt que « nous disons « Abba, Père » » Si on pense à ça, si je prends l'image d'un bébé qui naît, qu'est-ce que c'est important qu'il fasse? Quand ma fille Ruth est née, elle ne respirait pas. Et chaque seconde me paraissait des minutes. J'étais là avec Christiane et puis le médecin a donné Ruth à deux infirmières qui étaient là, qui étaient à côté pour essayer de dégager ses voies respiratoires pour que finalement elle lâche un cri, qu'elle pleure. Plaf! Le médecin, à un moment donné, a laissé mon épouse, puis a été vers le bébé, puis finalement, Ruth lâchait un cri. Alors ça, c'est quoi? Venu à la vie, les poumons sont remplis, et puis là, l'infirmière se retourne vers moi, elle dit, « Monsieur, la moi, ça va, vous êtes blanc. » Elle dit, « Vous n'êtes pas blanc, vous êtes vert. » Je la voyais mourir après 9 mois de grossesse. Mais là, elle est entrée à la vie. Et puis, je vois un peu un parallèle en disant que si, seul dans ta chambre, bien insonorisé, ou dans la forêt, tu dis, « Papa, je suis ta fille, je suis ton fils! » Il me semble qu'il y a quelque chose là, qui se passe, qui s'imprime. Le cri vient faire en sorte que j'imprime quelque chose. Là, que si parfois, tu as la peine à recevoir quelque chose, à prendre quelque chose, peut-être tu peux essayer ça. C'est une idée en passant. Je ne garantis rien sur la formule, mais j'ai réfléchi sur le cri. Alors, il y a le cri à la naissance, mais peut-être qu'il y a le cri de cette naissance spirituelle. Tu dis, Père, Papa! Et puis, de connecter avec Dieu de cette façon-là. Tout ça pour nous introduire aux vidéos qu'on va regarder et que vous connaissez peut-être. Ça s'intitule, vous trouvez sur Internet, « La lettre d'amour du Père ». Et ce qui est particulier avec cela, c'est que ce sont des versets bibliques qui sont racontés tout au long. Et c'est la parole de Dieu, mais cette parole-là, elle peut, qu'on la lit, rester morte. Mais on veut l'écouter avec foi. On veut laisser l'Esprit Saint parler à notre esprit. Soumettre nos émotions à notre esprit. Soumettre notre rationnel à notre esprit, puis recevoir ce que Dieu veut nous dire. Et donc, on va regarder ça, puis on va simplement laisser l'Esprit Saint nous visiter et nous rejoindre pour qu'on puisse se laisser reconstruire par la parole de Dieu. C'est quelque chose qu'on peut vivre ce matin, mais qu'on peut vivre et revivre et revivre tout au long de notre vie, parce que Dieu, chaque jour, il veut qu'on puisse manger et recevoir spirituellement. Alors, Joël, on a besoin de ton service, peut-être tu veux prendre une chaise avec toi aussi, je ne sais pas, non? Et après le vidéo, je vais vous laisser quelques minutes juste pour laisser pénétrer dans vos cœurs cette parole de Dieu. Alors, on comprend que quand on a plein de blessures dans nos vies, moi, je vois l'image de vases communicants. Les vases communicants, il y a l'amour de Dieu dans un côté, ma vie de l'autre côté, il y a une connexion entre les deux. Mais si ma vie est remplie de blessures, etc., c'est important donc que je reçoive la consolation. Mais quand le mal est enlevé, quand les paroles blessantes, les éléments blessants sont enlevés par le sang de Christ à la croix, à ce moment-là, l'amour de Dieu peut venir remplir mon vase à moi. Parce que je suis disposé maintenant à recevoir la vérité parce que le mensonge a été enlevé. Donc ça encore, c'est un processus tout le long de notre vie. Certains d'entre vous, vous avez peut-être été touchés ce matin, vous n'avez pas partagé, mais il y a quelque chose qui se passe dans votre cœur ou il y a une soif, il y a même peut-être quelque chose qui monte à la surface comme un manque, une peine. C'est un processus. Alors, on est en cheminement, nous tous. On n'est jamais arrivé. Et j'approche de la fin. Quelques paroles encore avant que je cesse. Donc, j'ai parlé d'un défi par rapport à recevoir au niveau de l'esprit dans notre intelligence spirituelle. Mais il y a aussi parfois des résistances auxquels on doit être sensible ou on doit être conscient. Parfois, il y a des personnes qui vont être méfiantes par rapport au Père céleste parce qu'ils ont encore un cheminement à faire pour faire confiance à Dieu. Et en quelque part, dans la démarche avec Dieu, il y a une démarche de foi et d'acceptation qu'on est invité à faire. Dire, Seigneur, je décide de croire que tu es bon. Même si j'ai eu plein de faux concepts sur toi, je veux croire que tu es vraiment amour. Quand tu te définis comme étant amour, je veux y croire. Que ton amour est haut, long, large, profond pour moi. J'accepte de le croire. Mais certains peuvent rester derrière des murs de défense, soit de colère, d'agressivité, de reproche, de peur, de pitié de soi. Alors la parole nous invite à être humbles pour recevoir. 2 Corinthiens 7, verset 6, ça dit, « Mais Dieu qui console les humbles. » Dieu console les humbles. Alors, laissons tomber nos murs et recevons avec humilité. 1 Pierre 5 dit, « Humiliez-vous sous la main toute puissante de Dieu afin que vous élève au temps convenable. » Donc, cet élément dit, « Seigneur, je m'humilie devant toi. T'es mon Père, t'es mon géniteur, c'est toi qui m'as créé. » J'aime cette image du ventre d'une femme enceinte. Et Dieu qui nous a placés là. C'est lui qui nous a placés là, au travers, oui, d'un homme et d'une femme. Mais c'est Dieu qui est derrière tout cela, Dieu qui t'a dessiné. Il y en a qui vont vouloir les deux. Ils vont dire, je vais continuer. La Samaritaine, par exemple, après avoir rencontré Jésus, s'est dit, bien, je vais continuer de vivre avec cet homme puis espérer que cet homme va me combler. Ça ne marche pas. On ne peut pas boire deux sources en même temps. Si la Bible nous dit que Dieu est un Dieu jaloux, ce n'est pas un péché de jalousie que Dieu a, mais c'est Dieu, il sait ce qui est bon pour toi. Puis alors, si tu continues de boire ailleurs, si tu continues de vivre dans des dépendances, soit dans le domaine sexuel, dans le domaine d'attachement relationnel avec une personne, ou de dépendre de tes parents, ou toutes sortes de dépendances, alors tu vas te priver de ce que Dieu veut te donner. Troisième chose, la Bible nous parle de quitter son père et sa mère. Je l'ai mentionné, c'est dans la Genèse. L'homme quittera son père et sa mère. Et il y a des personnes qui peuvent espérer que papa va changer. Que si seulement papa changeait, si seulement papa commençait à me parler dans ma vie, puis à être bon pour moi, puis à m'encourager, etc. Mais non, ce n'est pas le chemin que Dieu... Si ton père change, tant mieux. Si tout à coup, il y a une révolution dans sa vie, puis il se met à être le père que tu as toujours voulu qu'il soit, tant mieux. Mais ça ne va pas guérir les choses du passé. C'est juste Jésus qui peut guérir les choses du passé. Mon épouse, elle avait un père qui était un évangéliste, un pasteur. Elle était la cinquième, la dernière de famille. Et puis, elle aurait tellement voulu que son père s'intéresse à elle, l'encourage, etc. Puis, c'était un père silencieux à bien des égards dans sa relation avec Christiane. Et puis, Christiane, elle aurait espéré encore dans le testament, quand son père est décédé, qu'il y ait une parole pour elle dans le testament. Il n'y avait rien. Ça pourrait être comme, oh, quelle fin de film terrible, c'est désespérant. Mais non, il y a le Père céleste qui adopte et le Père veut parler. Alors, il faut être prêt à quitter, ne plus... Quitter veut dire ne plus dépendre d'eux. C'est ce que ça veut dire. Et c'est ça qu'on parlait hier, quand on arrive à l'âge adulte, on est appelé à ne plus dépendre de papa et de maman, mais de s'attacher à Dieu et dépendre de lui. Et ça peut être, oui, on est entré dans une autonomie et financière de lieu où on habite, etc., puis s'attacher à Dieu, grandir avec lui, grandir notre vie adulte, mais ne plus s'attendre que... Ah, si papa changeait, si maman changeait. Et aussi, il ne faut pas aller chercher un père ailleurs. C'est comme ça qu'on tombe dans des sectes, c'est comme ça qu'on s'attache à des hommes qui peuvent nous manipuler. Et la Bible dit, n'appelez personne votre directeur. Vous avez un seul directeur dans le ciel. Ça, c'est dans Matthieu 23, 9 et 10. N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être un directeur d'un organisme, mais c'est le poids qu'on met, Fieu Rubin, c'est le poids qu'on met à ce mot-là. Il n'y a personne qui t'appelait à diriger ta vie. C'est Dieu qui est ton directeur dans ce sens-là. C'est Dieu qui est ton Père. Mais dans tout ça aussi, il y a bien sûr l'amour du corps de Christ. On veut baigner dans l'amour du corps de Christ. C'est pour ça qu'on est appelé à être en relation les uns avec les autres. Et c'est pas la même chose que d'être dans un culte le dimanche. C'est pas une mauvaise chose de participer à un culte le dimanche, mais si tu es un inconnu dans un groupe, si tu n'as pas de relation, le corps de Christ, c'est les relations les uns avec les autres, la vie communautaire. Le GBU, et c'est une certaine famille, j'ai l'impression, que vous tissez des liens les uns avec les autres, et ça c'est aussi une expression du corps de Christ. Donc, investissez-vous dans de bonnes relations fraternelles dans le corps de Christ. J'arrive à ma conclusion pour ces deux jours qu'on a passés ensemble. Donc, on a parlé qu'on est appelé à vivre pleinement notre destinée. Et j'ai mis là ici l'image d'un livre, ce livre de vie. Psaume 139, sur ton livre est inscrit tous les jours de ta vie avant qu'aucun d'eux n'existât. Et sur ce livre-là, il y a des choses qui ont été écrites que Dieu n'avait pas écrites, mais qui ont été ajoutées par les péchés, les circonstances difficiles, les souffrances humaines. Jésus vient par son sang pour effacer certaines de ces choses, les enlever, tout ce qui a pu venir transformer le plan initial de Dieu. Parce que si Dieu est souverain, l'être humain est libre aussi, il y a des choses qui se sont inscrites sur ce livre-là qui n'étaient pas de Dieu, que Dieu ne voulait pas. Mais Dieu n'est pas un Dieu qui n'intervient pas. Il est intervenu en Christ. On a vu l'ampleur de l'intervention de Dieu en Christ, l'ampleur du chemin de guérison à cause de la croix de Christ et à cause de l'adoption par le Saint-Esprit et la prise en charge. Donc Dieu veut réinscrire, il veut effacer certaines choses et réinscrire des nouvelles choses dans ta vie. Et ça, c'est un processus, il y a des saisons. L'important, c'est que tu persévères dans la foi, dans ton attente. Souvent, la parole nous dit « espère en Dieu, attends-toi à l'Éternel, espère en Dieu. Mets ton espérance en Dieu en toute chose. Ne te décourage jamais, parce que Dieu est fidèle. Il a dit qu'il a commencé, il va l'achever dans ta vie. Il est en charge, il est à l'œuvre, il est là dans ta vie, et il va t'accompagner. Tout est possible avec notre Père en Christ, par le Saint-Esprit. Et je vais prier pour juste terminer. Merci, Jésus, parce qu'à cause de toi, on peut entrer dans l'abondance. Tu nous as donné accès auprès du Père, le voile a été déchiré. Tu as déclaré, c'est terminé, tout est accompli, c'est fini maintenant. C'est fini de vivre dans l'esclavage, de vivre dans le désespoir, le découragement, dans la peine et la misère. Parce que non seulement nous sommes sauvés, mais nous avons été rachetés à un grand prix, mais nous sommes adoptés aussi. Et faisons partie de ta famille. Maintenant et pour l'éternité, il y a une place que tu nous as réservée, Jésus, au ciel. Mais en attendant, sur terre, tu es avec nous, par ton esprit qui habite en nous, et le Père aussi est avec nous, par l'esprit qui habite en nous. Alors, je prie pour ta bénédiction, que ton la bénédiction du Père se répande sur nous tous ici, pour que nous puissions demeurer dans ton amour.